les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'air. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Vincent Dessureau, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui de par le vaste monde?
Bon, écoute, on commence par il y a quelques chiffres qui sont tombés dans les dernières heures sur la COVID, qui m'ont beaucoup impressionné.
Alors, c'est pas fini, ça, là?
C'est pas fini, mais on en parle de cette espèce de vague silencieuse qu'on a en ce moment parce que bon, ça engorge pas le système de santé qui est déjà, faut dire, sous pression naturellement en période estivale. Mais c'est l'effet d'Omicron. Et je sais pas si tu as eu la COVID dans les derniers mois. C'était en même temps que tout le monde en décembre,
janvier.
Non,
moi tout va bien, c'est drôle, mais il y a rien qui coûte quelque chose. Mais à part ça, ça va.
Mais tu l'as, t'as pas eu Omicron, t'as pas eu...
Je ne crois pas.
OK, bon. Parce que moi, je fais partie de ceux qui l'ont eu en fin décembre, là, quand tout le monde l'avait, les files d'attente de 5 heures pour aller se faire tester au Stade olympique. Et c'est ce qui a mis fin, à un moment donné, au test là, pour monsieur et madame tout le monde, parce que le système était débordé. Mais dans les derniers mois, selon les nouveaux chiffres publiés dans les dernières heures par le groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19, on a utilisé le terme tsunami là, de cas que Omicron a amené au Canada. On dit que dans les 5 mois là, d'après l'arrivée d'Omicron, c'est 17 millions de Canadiens qui ont eu la COVID.
17 millions, mais là, c'est une personne sur deux, à peu près.
Exact. Enfin, on dit là, avant Omicron, donc pendant quand même près de 2 ans de pandémie, là, à peu près 1 an et demi de pandémie, les anticorps, quand on testait les anticorps pour avoir une proportion de la population qui avait eu la COVID, c'était 7%. Après Omicron, donc écoute, entre décembre 2021 et mai 2022, là, donc en mai 2022, 45% des Canadiens avaient des anticorps. Donc c'est un bond monumental quand même.
Mais là, Vincent, quand t'es rendu à des proportions comme ça, tu tombes dans ce que les gens parlaient au départ, c'est de l'immunité collective ou presque.
Oui, là. Parce que là on arrive à ça, parce que tu rajoutes, t'as le 45% de gens qui l'ont eu, là-dedans il y a des non-vaccinés qui se retrouvent donc naturellement protégés davantage, t'as ceux qui sont vaccinés en plus, t'as ceux qui ont été vaccinés, qui ont eu la COVID, qui ont toute la kit, là, comme moi par exemple. Et ça donne qu'on dit en moyenne, on a eu à peu près 100 000 infections par jour au pays pendant cette période-là de 5 mois. Je me souviens, on regardait les chiffres en France à un moment donné. Présentement, ils ont à peu près ça, 100 000 cas. C'est un pays plus populeux. C'est impressionnant de voir qu'on a atteint des chiffres comme ça, que notre système de santé est arrivé à la limite là de ce qu'il pouvait faire. Mais on est passé au travers. Ça donne quand même de l'espoir sur le futur, sur la protection face à la prochaine vague qui pourrait arriver à l'automne. Particulièrement chez les plus jeunes, ce qui n'est pas la bonne nouvelle, parce que c'est eux qui sont le moins malades. Mais chez les plus jeunes, les moins de 25 ans, 65% avaient des anticorps. Donc, c'est une grande majorité de Canadiens de moins de 25 ans qui ont eu la COVID dans les derniers mois. Donc, ceux qui voyaient de la COVID partout, ben, c'était pas...
Il y avait raison.
C'était pas une illusion. Il y en avait
là,
vraiment partout.
Si tout le monde l'a, il y a toujours une espèce de baisse avec l'été, période plus chaude. L'automne qui s'en vient, on s'attend à une nouvelle vague de vaccination ou là, on considère qu'on est tout correct?
On en parle de vaccination pour l'automne. Ça va être intéressant de voir. Moi, c'est une question, je la pose à chaque expert que j'ai dans mon émission. Ils veulent pas s'avancer là-dessus. À savoir, est-ce que, parce qu'il y a beaucoup de cas en ce moment encore, tandis que les autres, les deux derniers étés, ça tombait vraiment mort, là, la COVID, pendant plusieurs mois. Là, ça circule. Il y en a un peu partout. Est-ce que ça va nous aider à affronter l'automne, parce que il y a encore une masse de gens qui vont avoir été fraîchement contaminés, mais un rythme qui est soutenable par le système de santé. Bon, ils veulent pas s'avancer parce qu'il peut arriver un nouveau variant qui change la donne, ça c'est clair. Mais ça va être intéressant de voir quelle tangente ça va prendre à l'automne. C'est quand même rassurant un peu de voir qu'on est passé à travers un taux d'infection absolument stratosphérique et qu'on est passé au travers. C'est une bonne nouvelle. Là où il y a une moins bonne nouvelle aujourd'hui par rapport à la COVID, Guillaume, c'est l'histoire des vaccins AstraZeneca. Souviens le vaccin qui a eu mauvaise presse parce qu'il y avait dans certains rares cas des caillots sanguins. On a rapidement tassé ce vaccin-là pour miser sur Moderna, Pfizer. Mais le Canada est sur le point de jeter 13 millions, fait presque 14 millions de doses de vaccins AstraZeneca. Et là, on se dit, OK, ben les pays plus pauvres...
Mais là, j'imagine qu'on fait pas ça par bonté. D'abord, ça veut dire qu'on les a payés, première chose.
On les a reçus.
On les a reçus, on les a entreposés, puis là, on va les jeter. Mais là, j'imagine, parce que les vaccins, tu mets pas ça dans ta poche d'en arrière, là.
Non.
C'est-à-dire que ça prend un lieu de conservation. Il doit avoir une durée de vie,
absolument,
un peu comme les médicaments. Après ça, il est moins efficace.
Date de péremption. D'ailleurs, on arrive à cette date-là. C'est un peu le problème, parce qu'au départ, tu te dis, ben écoute, il y a des pays qui ont des taux de vaccination extrêmement bas, qui ont besoin de vaccins. Pourquoi c'est pas ces vaccins-là qui y vont? Je me souviens qu'au début, quand on a tourné le dos à AstraZeneca, on s'est dit, ben parfait, ce qu'on avait promis là comme vaccin pour les pays pauvres, on va envoyer celui-là, là, vu que nous, on l'aime plus, là, on va vous l'envoyer. Ben, à la limite, c'était correct, parce qu'au moins, le taux quand même de danger était faible par rapport à celui de la maladie comme telle. Mais là, le problème, c'est que pourquoi les pays les plus pauvres ont pas pu recevoir ces vaccins-là? Ben, on comprend que plusieurs, d'ailleurs, le dénoncent, et que le Canada se revire de bord extrêmement tard, puis offre aux pays plus pauvres des vaccins sur le bord de la péremption.
C'est ça, c'est comme de dire, là, finalement, j'ai du lait dans mon frigo, puis là, mais je te le dis la veille de la date limite.
Ouais, puis en plus, t'habites, t'es en Rouyn-Noranda, là.
OK.
Tout est à Montréal.
Viens le chercher.
Viens le chercher, là. Il passe je te donne. Écoute, tout mon frigo, là, tout passe date demain, je te le donne. Ouais. Tu vas dire, OK, mais c'est parce que logistiquement, je peux pas, là, il va être périmé quand il va arriver chez nous. Ouais, c'est un peu ça, le problème. Parce que les pays les plus pauvres ont de la difficulté au niveau logistique. C'est un des défis élémentaires très, très difficiles de pouvoir recevoir les vaccins, les entreposer, les administrer.
Les distribuer, je pense, par exemple, au Congo, avant que tu sois capable de rentrer ça à l'intérieur des terres, c'est pas simple.
Ben non, c'est aussi complexe, sinon plus complexe en ce moment que recevoir des doses. Et là, nous, le Canada, on se retrouve à mal calculer nos quantités et se dire, ben là, y a-tu quelqu'un qui en veut alors qu'on est près de la date de péremption? Et là, ben plus personne, c'est pas que les gens n'en veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent plus tout simplement les recevoir. Et plusieurs, je vois l'Organisation mondiale de la santé qui disait avoir été déçus là, de...
L'OMS a fait un commentaire public sur la gestion canadienne.
Ben, on avait dit que le Canada, le manque de confiance du Canada envers AstraZeneca avait un peu nuit à l'intérêt pour le vaccin, ce qui fait que là, on a stocké des grandes quantités dont personne voulait. Et d'autres organisations disent, ben, t'as peu, le Canada et plusieurs autres pays ont envoyé des communiqués pendant la pandémie disant, ah, nous, on va donner, là, Guillaume, là, des millions de doses. On se souvient que Justin Trudeau, en raison d'une lenteur à réagir, avait acheté une quantité absolument incroyable de vaccins là, pour qu'on vaccine tout le monde maintes et maintes fois, de toutes les compagnies, à gros, gros prix. C'était bien beau, on en avait besoin à ce moment-là. Mais on avait dit, ah, c'est beau, les surplus, on va les donner là aux pays pauvres. Le problème, c'est que ça, dans un communiqué, ça se fait. Mais dans la réalité, il faut aussi appuyer au niveau logistique. Il faut aussi s'assurer que le vaccin puisse être reçu et administré. Puis ça, ce bout-là... On s'en foutait complètement.
Tu commences à dire qu'un communiqué de presse, c'est pas un programme gouvernemental en action. Ça pourrait créer un précédent dangereux.
Oui, mais on l'a vu dans plein d'affaires. Je me souviens la cathédrale à Paris, là, Notre-Dame de Paris. Oui. Après, écoute, il y avait des milliards. Tous les pays donnaient 100 millions, 200 millions. Puis là, après 3-4 semaines, tu avais la France. Dit, OK, ben quand le chèque, quand est-ce qu'on le reçoit? On a regardé dans boîte à mal, il y avait rien encore ce matin.
Est-ce que c'est bon d'arriver? Juste l'annonce, c'était pas assez.
C'est ça. Beaucoup, ben.
Ta passion pour les détails, hein.
Des petits détails comme ça que des fois, il faut que les gestes suivent les paroles.
Oui. Ah, mon Dieu.
Autre histoire.
Oui.
Pour terminer, Guillaume, j'ai trouvé intéressant un dossier du The Guardian ce matin qui fait une grande analyse avec des gens, des Londoniens, entre autres, qui ont décidé de changer de vie pendant la COVID. Comme beaucoup de gens, là, qui sont tombés dans « faut faire de grands changements, c'est le temps de s'en aller en campagne, de divorcer, c'est le temps de s'acheter un iguane. » Tous les rêves, on dit beaucoup de gens ont peur du changement, mais quand il arrive une crise majeure, c'est « OK, c'est le temps, on change tout, on quitte la ville. » Mais est-ce que les gens vivent avec des regrets en ce moment sur leur grand changement de vie de COVID? Et la question quand même, ça dépend vraiment de quels ont été les changements.
Oui, parce que bon, divorcer, c'est plus dur de redéfaire ça. L'iguane, tu peux le passer au voisin. Déménager, ça se fait. Mais bon, quel est le changement qu'ils ont le plus regretté?
Tu vois, entre autres, pour les animaux, on le voit, les refuges sont pleins en ce moment, alors qu'ils étaient complètement vides pendant la pandémie. Tout le monde voulait des animaux et se tournait vers des animaux, des fois moins populaires. Tu avais un furet, trois lapins, justement, des iguanes, parce que là, il n'y a plus de chiens, plus de chats. Même les chats défigurés, tout se prenait là. Mais après, tu te rends compte, un furet, ça sent liable, puis finalement, c'est pas si le fun. Alors, il les retourne en masse. Alors ça se fait quand même bien, malgré que ce soit triste. Et quand on adopte un animal, ça devrait être pour la vie, mais plusieurs le font quand même. Un des regrets qu'on voit certainement, c'est quitter pour la campagne. Ou certains urbains...
Il y a des regrets. Moi, je suis un campagnard. Là.
C'est ça.
Comment on peut regretter ça?
En fait, il y en a qui sont très, très heureux dans leur nouvelle vie. Là. Mais d'autres, ils donnaient quelques exemples de gens, entre autres un écrivain londonien. J'aurais peut-être pu le dire. pu l'annoncer, écrivain londonien, déménagé là en campagne avec sa blonde pendant la pandémie. Et là, il dit, là, je me rends dans un village, je me rends compte, les gens vivent là depuis des générations. Ils ont des, tu sais, des histoires de village, là, de la jalousie, du mémérage de village, des choses qu'on n'a pas à Londres. Je m'ennuie des cinémas, des parcs, des théâtres, je m'ennuie de la musique, je m'ennuie de pouvoir aller dans un pub
du
avec des amis.
Caractère anonyme aussi.
Caractère anonyme, exactement. Mais d'un autre côté, oui, on est bien, la campagne, l'air est pur et tout ça. Et un des experts qui a été interrogé dans cette enquête-là, un psychologue, un professeur à l'université de Durham, Fuchsia Sirois, j'aime beaucoup son nom, dit quand même qu'on se fait un certain système, on a un système immunitaire émotionnel, Guillaume. Et que
ça
souvent. Prends-tu
un vaccin pour ça encore?
Non, c'est que si on regrette un changement de vie, et qu'on peut le rembobiner facilement, on va le faire. On va faire comme, OK, c'est beau, ça n'a pas marché. Si c'est vraiment trop compliqué, on va préférer changer notre façon de penser.
Ah, alors, ça, c'est intéressant. Au lieu de changer, dis-toi donc que finalement, c'est correct comme ça.
Au lieu de dire, ça sent donc bien le purin ici, c'est dégueulasse, tu es comme, ah, ça, c'est bon pour la santé. Et là, tu commandes les beaux couchers de soleil et tu vas tranquillement te convaincre que finalement, t'es bien. Et tu vas peut-être devenir bien par tout simplement cette adaptation au changement que l'humain est capable d'avoir. Là où c'est plus difficile, en fait, où il y a moins de regrets, t'es tombé exactement dessus quand je t'ai parlé du sujet, c'est les divorces. Ah. Où on dit les regrets au niveau du divorce. Il y a des séparations, là, des couples qui sont élastiques, puis ça se laisse, ça revient ensemble. Mais on dit le divorce, c'est un processus tellement ardu, douloureux dans bien des cas, qu'une fois que c'est fait, c'est plus compliqué de revenir. Et les avocats, entre autres ceux qui s'occupent de conflits familiaux du genre, disant généralement, on dit c'est bon, ça va bien. Le regret qu'on a, par contre, c'est de ne pas l'avoir fait avant. On disait, hey, ça m'a pris la pandémie pour faire ce move-là, j'étais malheureux. Qu'est-ce que j'aurais pu vivre de plus si j'avais été libre plus tôt? Ça fait partie des quelques regrets de Britanniques vis-à-vis la COVID. Donc, je trouvais ça quand même intéressant de se voir. Ben, on a essayé de changer nos vies. Puis des fois, peut-être que notre vie d'avant nous manque ou pas. C'est vraiment selon les cas.
Là, peut-être, je vais être obligé de me poser toutes ces questions-là. Mais il y a du bon dans le mariage. Ça te permet d'être à deux pour faire face à des problèmes que t'aurais pas si t'étais resté tout seul.
quelle belle finale. Merci.
Vincent Desureaux, merci beaucoup.
À demain.
Au plaisir.